Yaakov retrouve Esav, eh bien, après tant d'années de séparation, Esav se trouve face à Yaakov et lui dit « Mi elelach, d'où t'appartiennent toutes ces richesses, tous ces troupeaux, toute cette famille, toutes ces femmes, tous ces enfants ?» Viens, hein, Esav lui dit « Je ne comprends pas, Yaakov, on était tous les deux dans le ventre de maman, de Rivka, et lorsque... Eh bien, on était tous les deux des jumeaux, on avait fait un pacte tous les deux, dans le ventre déjà. On avait convenu que toi, tu prends l'Olam Haba, moi je prends l'Olam Hazé. Et voilà que des années plus tard, eh bien, je te trouve maintenant avec tellement de richesses. C'est pas juste, tu m'as trompé. Tu n'as pas tenu ton engagement. Tu devais prendre seulement l'Olam Haba, mais pas cet Olam Hazé. Donc on nous dit, la Torah, mi elelach. Rachid dit sur place, Klomar. Lama lecha kol ele. Pourquoi tu as tellement de biens? C'est pas juste. Et ça, effectivement, c'est une tfissa particulièrement française. Qu'un ben Torah ou un rabbin, hein, il doit être pauvre. Il doit être comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, il n'a rien à voir avec l'argent. Tu peux faire énormément de choses et gagner de l'argent et être totalement les Shem Shamaim. Tu peux, ça n'a rien à voir avec toute cette richesse et toute cette abondance, comme disait Rabbi Yehuda. Que l'opasak mishul chano, chazeret, chazan nous disent que toute sa vie, tous les jours, il avait une shulchan malachim, il mangeait sur une table de roi, il manquait de rien, tous les victuailles du monde, tous les plus grands plats étaient à sa table, mais quand il est mort, il a levé ses doigts et dit « Je jure que je n'ai jamais profité de ce monde-ci ». Pourtant, il avait tout sur sa table. Il avait la dame Ruth et il avait les boyaux pour les Marocains, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais en tout cas, il avait rien, il manquait de rien, et malgré tout. Avant de mourir, il a dit « Voilà, je jure que je n'ai pas profité de tout ce monde-ci. Tu avais tout ça, tu n'as pas profité ». C'est-à-dire que j'ai utilisé ce monti comme étant un tremplin vers toi, Kadosh Baruch Hu, pas en tant que profit en soi-même, mais seulement en tant que moyen. Donc ça n'a rien à voir avec les Shem Shamaim, ce n'est pas pour gagner les Shem Shamaim, c'est tes kavanot sont bonnes. C'est-à-dire que si finalement tu as de bonnes intentions, alors même si tu avais l'abondance, eh bien tu peux et tu dois élever cette abondance vers Kadosh Baruch Hu, le servir et servir Hashem avec justement Bechol Me'odecha. Et effectivement, Esav, il a cette notion. Il a cette approche très archaïque, il dit « Attends, t'es un rabbin toi, pourquoi t'as tellement de richesses? C'est pas juste, t'as pas le droit !» Et voilà que Yaakov, il lui dit quoi? Il lui dit « Tu sais, moi, il me lavan garti, v'tariag mitzvot shamarti. Toute ma vie, j'ai gardé la Torah, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. J'ai fait face à beaucoup d'épreuves, mais je n'ai jamais lâché ma avodat Hashem. Ça a toujours été pour moi un ikar, un principe, une priorité, et je n'ai jamais lâché. Donc effectivement, je peux maintenant m'octroyer ces bienfaits de ce monde, pas en tant que but, en tant que moyen. Et où on voit ça? On voit ça dans la dernière Mishnah de Baba Metzia. La dernière Mishnah de la Maseret Baba Metzia, il y a une machloket par rapport à une situation dans laquelle il y a deux champs qui sont voisins, mais ils ne sont pas sur la même dimension. Il y a un champ qui est supérieur et un champ qui est inférieur. Donc il y a le sadé du Elyon et le sadé du Tarton. La Gemara nous demande qu'est-ce qui se passe si entre ces deux champs, donc dans l'entrechamp, il y a des fruits ou des légumes qui poussent. À qui appartient-il? Est-ce que ces fruits donc, qui vont pousser au milieu, d'accord, dans cette dénivellation, appartient-il au supérieur ou non? Il appartient à l'agriculteur inférieur. La Mishnah nous amène trois déotes, donc trois avis différentes. Dans ces trois opinions, la première nous dit que ces fruits, du fait qu'ils ont poussé là-haut, d'accord, eh bien, ils appartiennent à celui qui est en haut. Le deuxième avis dit, finalement, c'est vrai qu'ils ont poussé, ils ont pris pour source le sadé et le champ supérieur, mais finalement, ils ont poussé dans le volume de l'agriculture inférieure. Donc, ils doivent appartenir à celui d'en bas, pas à celui d'en haut. Et le troisième avis, c'est celui de Rabbi Shimon, il dit non. Il dit... Tout ce que l'agriculteur d'en haut peut rattraper avec le bras en se baissant, d'accord, sans avoir besoin de rentrer dans le champ de celui qui est en bas, sans avoir besoin de s'insérer, d'accord, dans le champ du tarton de celui qui est en bas, eh bien, ça lui appartient. En d'autres termes, nous dit Rabbi Shimon, les fruits qui sont dans cette dénivellation, ils appartiennent à celui d'en haut, tant qu'il a juste besoin de baisser le bras pour pouvoir les octroyer pour pouvoir les, et pour pouvoir les cueillir. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas besoin de rentrer en bas, ça t'appartient. La marloquette entre Yaakov Avinu et entre Esav, elle était là. Yaakov, il dit, regarde, miel et lard, tout ça, ça m'appartient. Tu sais pourquoi ça m'appartient ? Parce que moi, le Ben Torah, Zachiti Nilmot Torah, les Tzarech Lodot, la Kadosh Baruch Hu, tous les jours, on a le mérite d'étudier la Torah. C'est le plus beau cadeau qu'Hachem a pu nous faire. On est l'élite d'Hachem et on doit tous les jours remercier Hachem. Le Harizal a dévoilé à son élève, Rabbi Chaim Vital, que toute la raison pour laquelle il a atteint si haut niveau dans la Kdusha, dans la Vodat Hachem, dans le service divin, c'est parce qu'il avait justement cette akara, cette conscience des choses qu'il avait, le mérite. Tiens, quoi qu'il faisait une mitzvah, il te rend compte, moi je vais faire une mitzvah. Ashrenu matof relkenu. Et il réjouissait son cœur, il se remplissait d'une étla avout et d'un entrain énorme et sans cesse grandissant vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la simcha, c'est la joie, c'est la préparation avant chaque mitzvah. C'est ça ce qui lui a donné, ce qui lui a valu de devenir tout simplement le Harizal et d'avoir des asagot et des élévations tellement, tellement élevées. Et donc, vient Yaakov Avinu, il dit à Esav, regarde Esav, moi j'ai étudié la Torah. Si j'ai étudié la Torah, j'ai ce sroud, j'ai ce mérite. Et toute l'abondance qu'il y a sur terre, tout ce qui a de l'abondance qui vient dans le champ d'en bas, donc c'est le sadé du Tarton, c'est le Olam Hazé, c'est ce monde-ci, ils proviennent du Talmid Chacham. Talmid Chacham, le Ben Torah, le Oved Hashem, c'est l'entonnoir par lequel toute l'abondance passe. C'est-à-dire que s'il y a de l'abondance sur terre, c'est pour une seule chose. Ce n'est pas pour faire plaisir à M. Trump et ce n'est pas pour faire des guerres avec le Coréen, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est seulement pour une seule chose, pour servir le Ben Torah, pour servir le Ham Israël, pour servir ceux qui vont faire les mitzvot. Alors à ce moment-là, je peux me l'octroyer. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu, la halakha comme Rabbi Shimon ? À partir du moment où je dois juste baisser le bras, tendre le bras pour pouvoir m'octroyer ces fruits ou ces légumes, ils m'appartiennent. C'est-à-dire que toute cette abondance, tant que je n'ai pas besoin de m'investir à la matérialité, j'ai pas besoin de rentrer dans le champ d'en bas, j'ai pas besoin de faire des ishtadlouyotes et des efforts eh bien, supérieurs et qui ne sont pas nécessaires, qui sont trop de ishtadlout, comme il dit le Messilat Yesharim. Finalement, on arrive à l'effet inverse, quand on fait trop d'efforts pour obtenir quelque chose. On est dochek et tasha'a. On va forcer kivyachol le temps et forcer Hachem à nous donner ce qu'on a besoin. Quand on dit, ah, tu veux forcer, eh bien très bien. Eh bien, tu verras que kol dochek et tasha'a ou nitrak mipnei hasha'a. Finalement, il risque de tout perdre. Ce qu'il avait et ce qu'il manquait. Tandis que quand tu te fais de ce que tu as, eh bien de cette manière, tu peux t'approcher et tu peux remercier Akadosh Baruch Hu avec les moyens qu'il t'a donnés. Donc, ce Yesod-là que je suis en train de vous dire, c'est le Ben Yoyada, le Ben Yishraï, qui l'écrit donc, en explication de cette Masechet, de la dernière Mishnah de Baba Metzia. Et il dit qu'en réalité, c'était ça la marloquette entre Yaakov et nous, entre Esav. Yaakov, il dit, regarde, Esav, c'est vrai que j'ai de l'abondance. C'est vrai que j'ai tant de biens. Mais c'est quoi mon but ? C'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Finalement, Kadosh Baruch Hu me les a octroyés, pas en tant que but, pas en tant qu'objectif ultime, mais seulement en tant que moyen pour servir Hachem. Donc je peux me les octroyer, m'appartiennent à moi. N'oublie pas, Esav, si tu as l'abondance, c'était un homme puissant, c'était un homme fort, c'était le roi de tous Seir, c'est grâce à moi. C'est tout simplement pour me servir à moi, pas par Gaava, pas pour écraser les gens, mais en tant qu'Itraïvout et en tant qu'obligation. Et tout simplement, ça peut nous... Ça ne peut faire que nous responsabiliser encore plus que toute l'abondance, tout ce qui se passe sur terre. Eh bien, c'est pour pouvoir que Amisraël puisse servir à Kadosh Baruch Hu en général et pour que les Ben Torah puissent s'adonner à la Torah. Donc vient Yaakov, il dit ça m'appartient. Pourquoi ça m'appartient ? Parce que c'est juste un moyen pour servir Hachem. Donc Esav, tu ne peux pas, eh bien, tu peux pas maintenant venir et essayer de me retirer ce qui m'appartient parce que c'est un moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Maître Avotah, ici on a parlé de cette marloquette entre Yaakov et entre Esav, on va revenir dans le Shem Ishmoel. Un histoire extraordinaire, eh bien, on ne peut pas ne pas mentionner eh bien, la fête donc, la semaine prochaine, Hanouka, dans laquelle on voit que Am Israël, ils vont, l'Imsor est un Nefesh, ils vont se sacrifier pour une mitzvah. Une mitzvah que représente la fiole d'huile. Ils avaient beaucoup d'huile, c'est vrai, mais ils avaient tout été impurifiés par les Hashmonaïm, par les Romaïm. C'est-à-dire que tout simplement, les Grecs, qu'est-ce qu'ils sont venus ? Ils ont les Yevanim. Ils sont venus, ils ont impurifié toute l'huile. C'est la seule chose qui l'a remporté. Pourquoi ça l'a remporté tellement ? Parce que cette huile, tout simplement, était symbolique d'un message très, très rempli de grandes significations, très significatives, ce message, et pour dire qu'en réalité, eh bien, les Hashmonaïm, ils vont venir, ils vont dire, regarde, nous, Valim Sor est un effet, on va se sacrifier pour une fiole d'huile. On veut trouver une fiole d'huile qui est pure. Pourquoi ? Alors il nous dit le Rambam, la Torah, elle a permis l'impureté. La Touma, elle a été permise à partir du moment où le Rov du Tzibour est impur. À partir du moment où la majorité du Ham Israël, eh bien, il ne reste qu'à Touma, eh bien, même les aliments et même les objets qui sont impurs, ils deviennent permis. Pourquoi ? Même en Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que l'impureté et la pureté de Ham Israël et du monde en général, eh bien, tout simplement, il est fixé par la situation spirituelle du Ham Israël. Donc si Ham Israël, dans sa majorité, est impur, eh bien, à ce moment-là, les objets qui étaient impurs deviennent maintenant utilisables. Parce que tout simplement, la Torah s'adapte au niveau spirituel du Ham Israël. Et donc, si Ham Israël, à ce moment-là, ils étaient tous dans une impurité, dans une Touma, dans une impureté qui était collective, eh bien, il était permis d'utiliser une huile qui est impure aussi. Même si cette huile a été impurifiée par les Yévanim, par les Grecs, eh bien, tout simplement, il était permis de l'utiliser en tant que travail et en tant que travail sacerdotal en tant qu'avoda dans le Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque cette huile, elle est impurifiée, que le Ham Israël, dans sa majorité, était si impur, on aurait le droit de l'utiliser. Et voilà que les Hashmonaïm ne se sont pas suffi de cette permission. Ils ont dit non, nous on ne pense pas comme ça. On va à l'Imsor et à Nefesh. On va se sacrifier pour essayer de trouver une fiole d'huile qui a gardé le cachet du Kohen Gadol. On va se sacrifier, on va s'investir et on va à l'Imsor et à Nefesh. On va tout simplement se sacrifier pour pouvoir trouver, pour pouvoir fabriquer une nouvelle huile. Akadosh Baruch Hu a fait le miracle. Le miracle de la fiole d'huile, c'est un miracle qui est finalement un détail dans toute cette guerre qui est tellement extraordinaire. Les Fikamam et Farshim, selon plusieurs commentateurs, eh bien, Hashmonaïm, c'était Rabbi Yochanan Kohen Gadol avec 5 enfants. Ils n'étaient que 5. Ils ont fait la guerre contre la plus grande Mahatsama, contre la plus grande puissance mondiale, contre les Grecs, et ils ont gagné la guerre. On aurait pu dire, c'est ça notre miracle. C'est ça le plus grand miracle, c'est le miracle de la guerre. C'est un miracle qui est extraordinaire. Trouver une fiole d'huile qui est enfouie dans la terre, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose de grand. Mais on ne peut pas en faire tout un plat. Eh bien, c'est l'inverse. On en a fait tout un plat, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on a le mérite aujourd'hui de manger des sauvegagnottes. Parce qu'on en a fait tout un plat, justement. Parce qu'en réalité, eh bien, Kadosh Baruch Hu a voulu dire, non, tu sais, dans l'impureté, dans la Touma, dans l'exil, à Israël, à ce moment-là, ils étaient à un niveau spirituel extrêmement bas. On va voir pourquoi. On va voir les sodes du bar. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner, Chazal ? C'est qu'en réalité, eh bien, lorsque Ham Israël se trouve dans un niveau spirituel qui est assez bas, dans une chute spirituelle, eh bien, il faut être sensible à un clin d'œil du Créateur. Akadosh Baruch Hu inozoa inashgacha pratit. Akadosh Baruch Hu nous dit, écoute, mon fils, je suis là. Je suis là, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation et c'est moi qui vais t'en sortir. Si tu arrives à être sensible à un tout petit miracle qui a priori n'a pas de valeur, n'est pas un acte qui est extraordinaire comme la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de trouver une fiole enfouie dans la terre. Mais tu as été sensible, tu as recherché la main d'Akadosh Baruch Hu dans l'épreuve. Quand tu recherches Hachem au moment où ça va mal, des fois on a de l'entrain pour servir Akadosh Baruch Hu, et des fois on n'arrive pas à étudier, on ne comprend pas les Tosfot, on ne comprend pas le Marsha, et c'est difficile, il faut l'atmide, il ne faut pas parler. Et combien de avodat Hachem, et combien sortir dans la rue, c'est une avodat Hachem extraordinaire de ne pas regarder à droite et à gauche et garder son regard. C'est tellement difficile. Quoi, tous les jours, toute ma vie, je dois servir Hachem, je ne peux jamais me reposer. Ben, Yeshev, Yaakov, ou Bikesh, Tachevet, Beshalva. Yaakov, il a voulu dire, tu sais, si tu as envie d'Hachem, tu dois comprendre, bien que c'est un travail infini, ça vaut tellement le coup. Tu vas tellement être heureux à la fin, mais ne t'attends pas au repos maintenant. L'Odaïla Tzadikim, la Sahar Shima Hakelem, la Hatid Lavo, nous dit Rashi sur place. Comment tu me vaquèches, la Chevette Beshalva ? Comment toi, Yaakov, Avinu ? Tu demandes et tu prétends le repos sur terre. Yaakov, tu vas recevoir une Nachala Blimetsarim, un héritage infini. Et sur terre, tu veux profiter, tu veux aller à Tahiti, tu veux aller te dorer sous les cocotiers. C'est pas normal, ça va pas ensemble. Cette Shalva. Ce repos que tu demandes, bien entendu que c'était que spirituel, c'était que pour servir Hachem, je ne peux pas croire que Yaakov il voulait vraiment perdre son temps. Mais il a demandé la sérénité en tant que moyen et peut-être en tant que but pour pouvoir servir Hachem. Akadosh Baruch Hu dit l'Odaï, la Tzadikim, la Nachala, Hachem Hakelem, la Tid Lavo. Tu ne penses pas que là, pour l'éternité, tu vas profiter alors dans ce monti. Travail. Bevadaï qu'on doit rechercher la sérénité sur terre pour se réveiller à Hachem, mais si eh bien Hachem le décide différemment, alors il faut le prendre comme étant un moyen, comme étant un tremplin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, si Yaakov, il n'a pas compris ça, et à nouveau, des tsarot avec Yosef, et avec le Dov, avec la femme de Potiphar, et avec tout l'épisode qu'on verra dans la parasha de Vayishev. Mais quoi qu'il en soit, Eh bien, les Hashmonaïm, pourquoi on va maintenant commémorer d'Afka ce détail qui est tellement minime, qui est le fait de trouver une fiole d'huile, parce qu'en réalité, cette fiole d'huile, c'était le signe de la providence dans le rocher, dans l'obscurité. Dans cette Touma du Ham Israël, donc on était tous dans la Touma, la majorité du Ham Israël était Tmeim, dans cette situation de Akadosh Baruch Hu qui nous a oubliés, il nous a abandonnés, on est dans l'exil. Les Yévanim, ils sont venus, les Grecs sont venus pour investir le Beth Amikdash et gouverner Ham Israël. Donc dans cet exil, tu retrouves et tu fais attention, tu es sensible à un appel de la Shrina, à un petit clin d'œil, c'est vrai, c'est pas énorme. Mais si dans la plus grande obscurité, tu es sensible à la plus petite étincelle, eh bien ça va t'éclairer énormément. On a vu ça aussi dans la paracha avec Yosef. Yosef, il va être pris par ses frères, jeté dans le puits. Il va commencer toute une épopée d'événements malheureux. Mais la Torah nous donne un détail. Sache que les Ishmaélim qui l'ont pris dans leur camion, dans leur chariot, eh bien, ils portaient, pas cette fois-ci du pétrole comme tous les Ishmaélim de l'époque, mais ils portaient des encens, ils portaient des bonnes odeurs. Comment Yosef il a fait attention à ça? Il est en train de pleurer, il est en train de s'attrister sur son sort, il est en train de se dire « je vais mourir, je vais être rentré dans le Hervat Haaretz, dans le pays dans lequel on ne peut pas sortir. Il y avait tellement de kshafim, il y avait tellement de sorcellerie dans ce pays d'Égypte, je ne pourrais jamais sortir. » Donc il était condamné pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit « mais il y a une bonne odeur, disons, cette voiture. » Comme si on attrape une personne, on va le mettre maintenant en prison dans une voiture de policier, on va l'envoyer, on l'amène en prison pour l'éternité, à perpétuité. Et il se rend compte que dans la voiture, il y a une bonne odeur. Eh, c'est sympa ça. Ah, merci Hachem. Il est bon d'être ici. Il va remercier Hachem. Il dit, mise mort les Todas, mais tu vas rentrer à la perpétuité en Égypte. Oui. Yosef Hatzadik, il nous apprend que dans l'obscurité, si tu es sensible et que tu recherches réellement la main d'Akadosh Baruch Hu, pas sensible et que tu as pleuré et tu as t'attristé sur son sort, au contraire, tu vas rechercher, elle où la main d'Akadosh Baruch Hu, eh bien tu vas pouvoir maintenant, au contraire, dans l'obscurité, goûter à la divinité encore plus que si tu étais dans la lumière et dans le guilouille. Quand il y a un guilouille panim, on ne se rend pas compte. Il y a tellement de lumière qu'on ne se rend pas compte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand il y a un ester panim, quand il y a une obscurité, quand il y a des ténèbres, quand il y a une difficulté spirituelle, ou matérielle, ou morale, quand on se prend un coup difficile, eh bien, si tu es sensible à la présence d'Akadosh Baruch Hu, sache que tu vas voir de ce petit détail, tu vas pouvoir tellement profiter, tu vas tellement pouvoir grandir, ça va t'amener à des très hauts niveau dans la Avodat Hashem. Donc c'est ce que nous apprend Yosef, en étant sensible, en faisant attention justement à l'odeur que ces prisonniers, eh bien, que ces gens qui l'amenaient en prison pour l'éternité, pour la perpétuité, eh bien, portaient. Et c'est ce que nous apprend les Hashmonaïm, qu'ils ont réussi tout simplement à trouver cette fiole d'huile, mais dans l'obscurité, dans les ténèbres. Au moment où on était Tmeim, ils ont réussi à trouver une toute petite fiole. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais dans l'obscurité, c'est tout simplement un petit peu une petite étincelle qui va chasser énormément de ténèbres. C'est ce que nous dit David Ameler. Gam ki eshev bachosher, Hashem orli. Même si je suis dans les ténèbres, je suis dans l'obscurité et je suis dans un moment difficile de ma vie, je suis sensible, je fais attention à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Gam ki eshev bachosher, je suis en pleine obscurité, dans les ténèbres, dans mes difficultés de ma vie de tous les jours et de tout le chemin que j'ai fait pour me rapprocher d'Hashem. C'est pas facile, c'est vrai. Mais tu fais attention, tu es sensible et tu prends en considération, tout simplement, la plus petite lueur, elle va te réjouir. Tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Tu vas tout simplement te ressourcer grâce à une petite lueur, à Akadosh Baruch Hu. De cette petite lueur, va te faire entrer maintenant dans un cercle, dans un carcan positif pour t'approcher encore plus tous les jours d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce que nous dit Chazal au moment de Hanouka. On était en plein rocher de Yevanim. On dit que les Yevanim, les Grecs, ils voulaient l'archir et ténèm chez Israël, bekzerot akashot chez l'Hem. Ils voulaient, eh bien, rendre aveugle l'âme Israël, tellement il y avait des décrets, il y avait des difficultés, il y avait tellement de souffrances sur l'âme Israël. Mais ils ont fait attention à cette petite feuille d'huile. Et donc, quand tu fais attention dans l'obscurité, eh bien, tu te rends compte de la grandeur et la bonté d'Hachem. Et de là, tu vas pouvoir grandir. C'est pour ça qu'on va d'Afka commémorer ce petit miracle qui est insignifiant par rapport au grand miracle de la guerre. Mais plus loin que ça, me dit le Bar. Pourquoi ils avaient besoin d'imsor et anefesh, selon la halakha? Pourquoi ils avaient besoin d'allumer de l'huile pure? On avait le droit d'allumer cette huile impure, comme on l'a dit selon le Rambam. Mais en réalité, nous dit le Bar, parce qu'on y trache l'ouba avoda. À Israël, il y avait les Kohanim, il y avait le Beth Amikdash, mais ils faisaient leur avoda d'Hachem. Comme quand on va à la poste et qu'on travaille et qu'on passe la carte, on est comme des fonctionnaires de l'avoda d'Hachem. On est des fonctionnaires du service divin. Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute, ton service divin, j'en veux pas. Garde-le pour toi. Si tu fais ta Avodat Hashem comme une marionnette, comme un robot qui ne donne pas son cœur, qui ne s'investit pas, de ne pas se rendre compte du chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné d'étudier la Torah tous les jours, de pouvoir étudier cette Torah, de pouvoir grandir dans cette Torah, de pouvoir la transmettre à notre femme, à nos enfants, à nos parents, à notre entourage. Si tu ne t'en rends pas compte du cadeau que tu as fait, ben garde-le, ta Avodat Hashem, elle n'a pas grande valeur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il manque la véritable valeur des choses. Et les Hashmonaïm se sont rendus compte de leur erreur. Ils faisaient la Avodat Hashem, ils venaient au Beth Amikdash, ils allumaient la menorah, mais comme un fonctionnaire. Alors Hashem, il dit, votre Avodat Hashem n'a pas de grande valeur, je vais vous l'ôter, je vais vous la retirer. Pourquoi ? Comme disait Rav Sitruk, Zichrono Livracha, c'est quand on est loin d'une chose qu'on l'apprécie. L'être humain, il a un des défauts de l'humanité, c'est de jamais se rendre compte de ce qu'il a. Il va toujours se rendre compte de ce qu'il n'a pas, ce qui lui manque, il va pleurer sur ce qui manque. Mais ce qu'il a, il pense que c'est naturel. Alors il dit, maintenant ce que j'ai, c'est normal, maintenant il faut que j'atteigne maintenant d'autres niveaux, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que j'ai une plus grande maison, il faut que j'ai une meilleure voiture, il faut que j'ai... on va toujours essayer de s'accaparer, de prendre et jamais se suffire de ce qu'on a. Donc le problème qu'on a, c'est tout simplement de ne pas se rendre compte de la bonté d'Hachem. Alors comment Hachem il fait ? Il nous le cache. Il nous le cache. Une personne qui s'est cassé la jambe, il va se rendre compte combien il est bon de marcher, de pouvoir courir, de pouvoir monter les escaliers. On ne se rend pas compte, on le fait naturellement. On n'en prend pas conscience. C'est quand on nous l'ôte, quand on nous le retire, on dit mais combien c'était extraordinaire de le faire. Eh bien, on demande à Hachem de ne pas arriver justement à cette situation dans laquelle il a besoin de nous ôter et de nous octroyer ce qui nous appartenait pour pouvoir redemander à Hachem, parce qu'Hachem mitavé de tefilatam chez le tzadikim. Et donc, nous dit le Bar, le Bayit Radash sur le Beit Yosef, dans les trois Tranouka, que la raison pour laquelle Am Israël a été Moser et Nafsham, s'est sacrifié pour allumer eh bien, une huile pure, c'est parce qu'il faisait la Avodat Hashem depuis des centaines d'années, mais de manière automatique, comme une marionnette ou comme un robot qui le fait sans cœur. Hashem dit, j'ai pas besoin de votre Avodat Hashem. Il nous a retiré. À ce moment-là, Am Israël s'est rendu compte de son erreur, les Hashmonaïm sont venus, cinq hommes, ils ont valé Moser et Nafsham. Cinq hommes, on va maintenant sortir en guerre. On va essayer maintenant de tout faire pour trouver une huile pure. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout simplement, il fallait mettre du cœur dans notre Avodat Hashem. Il fallait de la Itlahavout, il fallait de l'entrain, il fallait de la Simcha dans notre Avodat Hashem. Sans ça, ça n'a pas de valeur. Donc, je dis le Bar, c'est pour ça que toute la Klaya et tout le décret du Ham Israël au moment de Hanouka, eh bien, c'était spirituel. C'était spirituel. Les Grecs, ce qui les dérangeait, c'était tout simplement la spiritualité du Ham Israël. Il voulait tout simplement nous retirer eh bien, ce droit de pouvoir garder le flambeau de la Avodat Hashem, le flambeau du service divin. Il voulait nous le retirer, vous nous éteindre ce flambeau. Alors, ils ont, par tous ces décrets, eh bien, ils ont voulu nous retirer tout ça. Quel est le tikkun tout simplement ? Eh bien, comme la faute, elle était spirituelle, la faute, elle était un manque d'itlavout, un manque d'entrain, de joie dans mon service divin. Alors, comment je vais pouvoir le réparer ? Eh bien, en m'investissant, en me sacrifiant, en me donnant totalement corps et âme et en prenant conscience avant chaque mitzvah. Maintenant, je vais bénir Akadosh Baruch Hu, maintenant, je vais dire une bracha, maintenant, je vais prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. On raconte que le Rambam, il avait une fois une orange, un morceau d'orange devant lui, il devait faire la bracha Boré Pérez. Il a commencé à réfléchir. Maintenant, moi, je suis un être de chair et de sang, avec toutes mes imperfections, avec toutes mes mauvaises midotes, avec tout ce que ça peut impliquer. Je vais maintenant bénir et je vais maintenant prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc moi, un être imparfait, je vais maintenant bénir la perfection. Il a tellement réfléchi, l'Israël, qu'il est resté plus d'une heure devant son morceau d'orange. Plus d'une heure. Et à la fin, oui, Aleph. À la fin, il est tombé dans les pommes. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, moi, je ne peux pas, c'est pas possible qu'une personne puisse bénir Hachem, c'est impossible. Ça ne rentre pas dans l'entendement humain, ça dépasse l'entendement. Mais en réalité, eh bien, de cette manière, prendre conscience avant l'accomplissement du mitzvah, prendre conscience avant d'ouvrir ta Gemara, Kadosh Baruch Hu, Zaha, Zikaoti m'a donné ce mérite de pouvoir étudier la Torah, eh bien, à ce moment-là, ça a donné une autre dimension à ta Avodat Hashem. Et tout dépend de ça, on peut faire la même chose, on peut étudier tous les deux la même chose. L'un, il va le faire avec le cœur, l'autre, il fait sans cœur. Eh bien, toi, tu vas devenir un gadol et ton ami moins. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette prise de conscience, elle change tout. C'est une préparation qui dure quelques instants, quelques secondes, des fois même, tu le fais en chemin. Mais tu arrives et tu vas avoir une autre approche de ta Avodat Hashem. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit quand une personne, elle s'approche de la tefila de Beit HaKnesset, elle s'approche du Beit HaMidrash, Nifsak de Shulchan Aruch, il faut courir pour pouvoir rentrer. Ça sert à quoi de courir ? De toute façon, je vais rentrer dans 10 secondes. Je vais rentrer une seconde, quoi. Il y a une différence. Il ne faut pas courir tout le chemin, sinon ils vont prendre pour un fou, écrit dans le poskim. Mais juste avant d'entrer, dès qu'on voit la porte du Beit HaMidrash, il faut courir. Et si on ne peut pas courir, il faut au moins accélérer le pas. Quelle est la différence? On va arriver presque ensemble, une seconde de différence. Eh bien, tout simplement, là, ça montre ton entrain, ça montre ton attachement, ça montre la vraie valeur des choses que tu donnes. Tandis que quand tu marches normalement, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut tout changer. C'est ce que nous dit le Bar. C'était le tikkun, c'était la manière de réparer de Rabbi Yochanan Kohen Gadol et de ses enfants. On va tout simplement maintenant réparer ce manque d'entrain et on va maintenant s'approcher d'Akadosh Baruch Hu avec tout notre cœur. Avec tout notre corps, avec tout cet entrain, cette prise de conscience et de cette manière, j'aurai une manière différente de faire mes mitzvot, de faire ma tefila, de faire mon limud Torah. Et donc, comme la faute, elle était dans le manque d'entrain, le manque de prise de conscience spirituelle, il a fallu réparer dans la spiritualité. C'est pour ça que à Hanouka, eh bien, tout est spirituel. Même les bougies qu'on va allumer, c'est pas physique les bougies. C'est vrai que c'est physique, mais ça monte vers le haut. Ça montre que tout simplement, eh bien, c'est ça notre travail, c'est de travailler sur la spiritualité. À l'inverse de Purim, ou à Purim, eh bien, ishtachavu, ils se sont agenouillés. Ils ont mangé un festin avec Achashverosh et avec tous les Rechaïm. Donc, leur tikkun, c'était un jeûne, le jeûne de Esther. Et aujourd'hui, quand on va faire la fête et on va commémorer Purim, eh bien, il va falloir beaucoup manger et beaucoup boire. Parce que la faute, elle était au niveau du corps. Donc, la réparation est au niveau du corps. Tandis qu'à Hanouka, la faute, elle était au niveau de la spiritualité, de ce manque d'entrain, et la réparation, tout simplement, elle sera de s'investir, de se donner corps et âme, et de pouvoir goûter à la spiritualité, cette prise de conscience qui va donner tout simplement une autre dimension aux mêmes actes qu'on fait. De toute façon, on étudie la Torah. De toute façon, on a le mérite d'être ici, dans cet endroit Kadosh, avec des rabbins qui sont tellement investis pour nous, qui nous donnent tout. Et on n'a plus qu'à ouvrir la bouche pour qu'ils nous mettent la Torah en nous. Mais si je le fais sans cœur, sans entrain, je ne suis pas conscient, et puis il y a mieux autre part, et puis je peux aller voir autre part, et puis je veux me plaindre sur telle et telle chose. Sache qu'avec cette plainte, c'est vrai que c'est rien. Tu as le droit de te plaindre. Mais combien tu perds? Combien tu perds? Cette même Torah qui est tellement douce, elle va devenir amère. Zachan et Salo Sam Chaim, nous dit la Gemara, que la Torah, si tu es mesaker, t'es midot, si tu essayes de réparer et de te parfaire, et bien cette même Torah, elle devient tellement douce, comme cet élixir de vie. Mais le Zaha, si tu n'as pas purifié, comme ça veut dire Rabbi Yoram de Mir, si tu n'as pas purifié, tu ne t'es pas purifié, tu n'as pas essayé d'enlever tes mauvaises midot, bien cette même Torah, elle devient sa mamavette, elle devient un poison. C'est la même Torah, c'est les mêmes mitzvot. On le fait avec de l'entrain, on le fait sans entrain. Avant que les Grecs n'arrivent en Israël, on faisait toutes les mitzvot, on était des grandes tzadikim extérieurement. À l'intérieur, il n'y avait rien. Après ça, on a peut-être fait moins de choses, mais avec tout notre cœur, tout notre entrain, c'est pour ça que la réparation, c'est tout simplement l'Hallel. L'Hallel ou l'Hodaya à Hanouka, la seule chose, c'est de remercier Kadosh Baruch Hu. Tout est spirituel. Il n'y a aucune mitzvah à part manger des beignets. Le Khatam Sofer, d'ailleurs, Ragav, il dit que c'est une mitzvah d'Oraïta, parce que tout ce qu'un Israël fait, eh bien, ça a toujours une source spirituelle. Bien entendu, l'Halakha, ce n'est pas d'Oraïta, ce n'est même pas des Rabbanan. C'est juste que tout ce qu'un Israël fait, eh bien, ça leur permet de se rendre compte qu'il y a un minhag, et le minhag, il a force de loi. Mais, tout simplement, la réparation a été spirituelle. Donc, à notre époque, on doit prendre conscience, et de cette manière, comme ça a dit le Bar, de l'itlahev dans la Avodat Hashem. C'est ça le travail de Hanouka, c'est pour ça que ça tombe en plein hiver. On a froid, on doit tout simplement réchauffer notre cœur. Béhémet, la question quand on veut servir à Kadosh Baruch Hu, c'est de savoir comment on doit servir Hashem. Est-ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu avec donc que de la itlahavut? Parce que d'un autre côté, en prenant que de la itlahavut, on peut avoir l'air de quelqu'un de méchouné, de quelqu'un de bizarre, ou bien non. La base de notre avodat Hashem doit être interne, doit être cachée, ne doit engager que nous avec Kadosh Baruch Hu. Comme je dis souvent, l'avodat Hashem, ce n'est pas une vitrine. Tu n'as pas besoin de mettre en avant tout ce que tu fais. À tel point que dans la halakha, nifsak dans le Shulchan Aruch, une personne qui ferait un jeûne, une personne qui ferait un jeûne pour kaparat avonot. Une personne, on s'approche de Shovavim, on s'approche de la période à partir de Shemot jusqu'à Mishpatim, si parachiot dans lequel, eh bien, une personne doit réparer khatat neorim. Des péchés qu'on a pu faire dans notre jeunesse, par erreur ou de manière volontaire, eh bien, le meilleur moment pour le réparer, c'est à partir de Shovavim, à partir de Shemot. Et parmi les tikkunim, c'est les fiyah Kabbalah, mais parmi les tikkunim qui sont instaurés, eh bien, il y a écrit un jeûne. Une personne qui ferait un jeûne, est-ce qu'elle a d'abord bichra le droit de jeûner? Est-ce qu'une personne peut jeûner? Si elle étudie la Torah, eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, le limud Torah, c'est Mechaper, c'est la plus grande Kaparat Avonot. La meilleure manière de pouvoir réparer nos fautes, quelle que soit la faute qu'on a pu faire, même la plus grave des fautes qu'on a pu faire. La meilleure manière, et la seule manière, nous dit le Gaon de Vilna, qui est le plus mo'il, qui est le plus précis, qui va tout simplement réparer la faute à la base, c'est le Talmud Torah. Talmud Torah, eh bien, ça, c'est un feu brûlant, c'est un liboun qui va effacer et qui va éteindre tout le mal qu'on a en nous. Une personne qui jeûnerait, c'est vrai que pendant Shuvah Vim, c'est peut-être recommandé, mais en aucun cas on a le droit de le faire sur le Zman du Seder Limoud. Parce que si à cause de ton jeûne, tu vas mal étudier, eh bien, Chas V'Shalom, tu vas plus perdre que gagner. Le Ikar, c'est le Talmud Torah, et le jeûne peut être là, effectivement, si c'est nécessaire, si vos rabbanim vous le permettent et si le Rosh Yeshiva accepte, eh bien, et que ce n'est pas sur le Cheshbon du Limoud Torah, mais qu'on a un vrai, il y a un rachage de Gezel. Il y a un rachage de Gezel, Rabotai, c'est une personne, elle vient au travail et qu'elle n'est pas totalement investie et qu'elle n'a pas toute sa tête dedans dans ce qu'elle fait. De la même manière que les Avdil, une personne qui irait dans une société d'informatique et qui serait fatiguée, nous dit le Shulchan Arour dans Siman Shin Lamed Zayin, qu'il y a un Issour d'Oraita, personne qui ne dort pas la nuit, qui arrive au travail le matin, eh bien, il va arriver en retard, il va être fatigué, il ne va pas être concentré, nous dit le Shulchan Arour, eh bien, dans les prochaines Mishpat, que c'est un Issour d'Oraita de Gezel. Pourquoi ? Parce que tu vas être moins mo'il, tu vas être moins efficace dans ton travail. Or, le patron te paye sous condition que tu es totalement efficace. À tel point que le Gaon de Vilna, le Igrot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, pose une question : est-ce qu'une personne veut faire un régime ? Est-ce qu'une personne peut faire un régime pour des raisons esthétiques ? Si c'est pour des raisons de santé, parce qu'il a des problèmes de cœur, il a du cholestérol et que ça devient dangereux, c'est sûr qu'il peut le faire. Si c'est pour des raisons esthétiques, eh bien, le Rav Moshe Feinstein dit qu'on n'aurait pas le droit. Parce qu'en faisant un jeûne, s'il est draconien, pas que tu manges, au lieu de manger 7 sandwichs par jour, t'en manges 6. Mais si c'est un régime draconien qui va maintenant te faire perdre tes capacités de concentration et tes aptitudes physiques, eh bien, en jeûnant ou en faisant simplement ce régime, eh bien, tu as volé ton propriétaire. Et ça, c'est une sourde oraita. C'est une sourde oraita. Des fois, on fait des chumrot, on dit je fais des choses, mais on ne se rend pas compte qu'on perd énormément. Et donc, on n'aurait pas le droit, à moins de demander, eh bien, explicitement l'autorisation à son propriétaire. Sinon, on est ouvert à une sourde oraita. Et là-bas, le Shulchan Aruch, d'ailleurs, nous dit, il n'a même un pasouk de la paracha de la semaine. Il dit, Chayav Adam le Dagdek Bazman, une personne qui vient au travail doit faire attention à toujours être à l'heure et à travailler avec toutes ses forces, avec toute son aptitude pour pouvoir augmenter et décupler ses capacités de travail. Pourquoi ? Parce que s'il ne fait pas ça, il va voler son propriétaire. Et d'où on apprend ça ? De Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit quoi ? Quand il a voulu partir de Lavan, il a dit à ses femmes, il a dit, Avati et Avichen Bechol Kochi. J'ai travaillé votre père de toutes mes forces. J'ai travaillé la nuit, le jour, le matin, le soir, en hiver, en été. Quel que soit, j'ai fait tous les efforts du monde pendant 20 ans. Et grâce à ça, effectivement, Lavan est devenu riche. Mais il nous dit que le Shulchan Aruch sur place, il dit, je vous donne une ségoula. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre de Kabbalah, ce n'est pas un livre de ségoula, c'est un livre de code pénal. On doit le suivre à la lettre. Et il dit là-bas, je te donne une ségoula pour t'enrichir. Tu veux t'enrichir, ba'olam azev et ba'olam abba, pour l'éternité dans ce monde-ci aussi, tu veux devenir riche, eh bien, sois droit dans ton travail. Investis-toi à fond pour ton patron, fais tous tes efforts pour pouvoir être meilleur dans ton travail. Et de cette manière, nous dit le Shulchan Aruch, que de cette manière, va Efrod, Saïch, Me'od, Me'od. C'est quoi Me'od, Me'od ? Il est devenu extrêmement riche. C'est quoi Me'od, Me'od ? C'est quoi cette redondance ? Ba'olam Hazeh et Ba'olam Haba. Donc il a gagné et ce monde-ci et le monde futur en étant droit dans son travail. Un avrer aussi, Rabotai, eh bien, il est mechouyav. Un avrer, il est mechouyav, il est obligé, il est tenu de faire attention aux zman, de faire attention à son investissement, de faire attention. Alors, ouais, mais moi, je ne gagne pas 15 000 shekels comme à Intel. Mais les 3 000 shekels, les 2 000 shekels, les 1 000 shekels que tu reçois, tu sais quel Messirut Nefesh, le Rosh Yeshiva a fait pour te les donner. Ça coûte, les 1 000 shekels qui est donné, ça coûte 20 000 shekels dans une société autre part. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est par la Torah, Kdosha. Il n'y a que de la Kdosha dans cet argent. Donc, tu dois t'investir corps et âme pour pouvoir eh bien, être au mieux de ta forme. Et il y a écrit dans le Shurano, on ne peut pas la nuit dire, bon, je dors tard, ou bien je ne mange pas beaucoup la journée, et puis c'est pas grave. C'est très grave et tu fais du gezel. Et ce gezel, il n'a pas de mechila parce qu'on peut même pas le quantifier. Eh bien, on revient à la Avodat Hashem. Donc, il y a écrit là-bas, une personne qui fera un jeûne personnel, donc si son Rosh Yeshiva lui permet, eh bien, il y a écrit que si tu en parles autour de toi, et tu dis ouais, aux gens, ouais, moi, je suis en train de faire un jeûne, tu comprends, moi, je suis un tzaddik, moi, je ne suis pas comme vous tous. Eh bien, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, non seulement, il n'y a pas de salaire, tu ne vas pas être récompensé pour ça, mais en plus, tu vas être puni. Pourquoi ? Parce qu'une chassidoute, ce n'est pas fait pour être mis en grande connaissance de cause et en public. C'est fait pour être n'impliqué que toi avec Akadosh Baruch. Quand tu fais une mitzvah, tu peux le faire aux yeux de tous. Mais quand tu fais de la chassidoute, eh bien, tu vas faire attention que ce soit le plus discret possible. C'est ça, Rabotai, la marloquette qu'il y avait entre Yosef et entre Yehuda. On voit dans la paracha de Vayeshev, Yosef Hatzadik, Aya, Osema, Ase, Neharut, Parashat Vayishlach, on voit ça. Il se faisait beau, il se faisait les cils, il se faisait les boucles. Et Béhémet, il y a écrit dans la halakha, dans Yoredea, les lois de Yoribash, qu'un homme n'a pas le droit de se regarder dans une glace trop longtemps. Tu peux regarder que tu es propre, que tu présentes bien, c'est tout. Tu n'as pas le droit de te contempler dans une glace. Il y a des femmes, elles se regardent jusqu'à que la glace va dire c'est qui la plus belle, c'est moi. Elles ont trop vu Alice au Pays des Merveilles ou d'accord, Cendrillon, quand elles étaient petites. Mais un homme n'a pas le droit de faire ça, n'a pas le droit de se contempler. Il y a écrit, tu peux te regarder, tu peux passer rapidement, t'as pas le droit de... il y a une histoire de l'Oilbash. Tu te comportes comme une femme, tu n'as pas le droit de te comporter comme une femme. Et donc, le Yosef Hatzadik, il se faisait très beau, il était très élégant. Et il a écrit quand il a fait ça, eh bien, quand tu te fais boire, que ton père il est en train de la chevette Evel, il est en train de s'asseoir sur toi en tant que deuil, eh bien, je vais t'envoyer le dove, je vais t'envoyer l'ours, et il a envoyé la femme de Potiphar. Eh bien, Emet, il a écrit dans le Sefer Chassidim qu'un bachour qui se regarde dans une glace et qui pense que à faire attention à ses muscles, à sa manière dont il a l'air de se faire beau, il fait attention qu'à son côté physique, nous dit le Sefer Chassidim que le Yetzer Hara, il dit, celui-là, cet homme-là, il m'appartient. Il fait partie des miens, il fait partie de mon camp. Il fait partie de ma bande. Pourquoi ? Parce que j'ai même plus besoin d'investir pour lui. Il est déjà dans le filet du Yetzer Hara. Et bien, Emet, Yosef Hatzadik, il avait fait ça. Comment il a pu faire ça ? Yosef Hatzadik, c'était vraiment, ça n'avait pas l'air d'un tzadik. Il avait l'air peut-être d'un rachat, j'allais dire, si je peux me permettre. Parce qu'il se faisait très beau et il disait du lachon hara extérieurement. Ses frères, ils ont dit : attends une seconde, cet homme-là, il n'est pas saoul. On a vu chez notre grand-père, Yitzhak, il y avait Ishmael, lui, il n'était pas saoul. Et Yaakov est tzadik et ça n'avait pas saoul. Donc nous, on est 11 frères tzadikim. S'il y a un rachat, c'est qui ? C'est lui. Mais en fait, au fond, lui, Yosef, c'est un grand tzadik. C'est un tzadik nistar, comme ça dit le Shem Ishmuel. C'est un tzadik caché. Tandis que Yehuda, c'est un tzadik galoui. Yehuda, c'est un Oved Hashem qui fait tout aux yeux de tous. Il est fort, il s'impose, il est modé barabim, j'ai fauté. Il le dit devant tout le monde, on est appelé en son nom. Donc Yehuda, sa Vodat Hashem, elle est extérieure. Yosef, sa Vodat Hashem, elle est intérieure. Alors je vais les katser pour la dernière minute, pour dire que la marloquette entre Yosef et entre Yehuda, elle était là. Tous les deux voulaient s'octroyer Binyamin. Binyamin, c'est le Beth Amikdash. Et il voulait savoir à qui appartient le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, donc c'est le travail divin parfait. La perfection au niveau de notre service divin. À qui elle appartient ? Est-ce qu'elle appartient à Yosef ? Est-ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu qu'intérieurement ? Être Oved Hashem et tout cacher et tout garder pour nous ? Ou bien non, on doit être comme Yehuda, on doit aller vers le prochain. On doit être un exemple, on doit... L'imchot, quand une personne fait une avéra, on doit lui faire une tochara, lui faire une remontrance. Et quand une personne fait une mise, on doit l'encourager. Est-ce qu'on doit se prendre maintenant pour un géo des mitzvot ? Au contraire, on doit être très discret. On doit être le plus caché possible. C'est le marloquette qu'il y a entre Yosef et entre Yehuda. Yosef, nous dit le Shem Ishmuel, eh bien, il est symbolisé par tout simplement le Aaron Abrit. Le Aaron, au Beth Amikdash, l'ustensile dans lequel se trouvait, eh bien, le Chot Abrit, l'étape de la loi, et les Shever, et les Shvarim, et les débris des premières tables de la loi. Donc c'est caché, on ne voit rien. Il y a trois boîtes, l'une dans l'autre, on ne voit rien, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que Yehuda, il est symbolisé par quel ustensile, par quel objet au Beth Amikdash ? Le dit Shem Ishmuel, il est symbolisé, comme ça écrit dans le Midrash, par la Menorah. La Menorah, tout son travail, eh bien, c'est d'éclairer autour de soi, c'est de rien garder pour toi. Donc vient Yosef, il dit, écoute, Binyamin, il m'appartient. Binyamin, cet enfant-là, c'est le Beth Amikdash, il m'appartient à moi. Je veux tout faire pour me l'octroyer. Yehuda, il dit, ma pitom, je suis prêt maintenant à faire la guerre contre toi, Parashat Vayigash, je vais me lever, je vais te montrer qu'il m'appartient à moi. Pourquoi ? Parce que le Beth Amikdash, il doit être tout simplement un travail qui est montré, qui est transmettre, qui est de donner. Et la marloquette entre Yosef et Yehuda, eh bien, on doit la prendre pour nous. Qui avait raison finalement ? Eh bien, j'ai dit précédemment, quand tu fais une chassidou, tu fais quelque chose... De plus que là, à l'Acha, tu fais un travail personnel, alors ne le montre pas aux gens. Parle à ton rave, parle à un Talmid Raham qui va te donner des conseils, oui, mais ne fais attention que ça ne t'amène pas de la gava. Tandis que chez Yehuda, eh bien, au contraire, il dit qu'il faut tout mettre en avant, pas Khadisham par gava, c'est juste pour tout simplement eh bien, être un exemple dans nos travaux d'Atacham. Quand il dit le Pele Yuet, une personne est dans un mariage, et les gens ils mangent comme ça sans faire le bracha à voix haute, eh bien, fais la bracha à voix haute, sois un exemple. Eh bien, Emet, les deux, ils ont raison. Donc ce qui est chassidout, il faut le cacher. Il ne faut pas le mettre en avant. Et tout ce qui est Shulchan Aruch, tout ce qui est la halakha, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, ben, il faut être un exemple. Et c'est pour ça qu'ils se sont octroyés. Il a pleuré sur le cou de Binyamin. Le cou, ça représente tout simplement bien la jonction entre la tête, la spiritualité et la matérialité. Donc Yosef, il se met sur ce cou, il va pleurer, il dit, il m'appartient à moi le cou. Parce que c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la jonction, c'est l'entonnoir entre le spirituel et la matérielle. C'est ce qu'on a dit au début. C'est le Talmid Raham qui va tout simplement être l'entonnoir par lequel toute l'abondance va venir sur terre. Et ça, ça appartient au Talmidé Chachamim, au Bachor Yeshivot, Ashrenu, chez Achrenu, l'Ilmot Torah, faut le dot la Kadosh Baruch Hu tous les jours à Botaï, et prendre ça pour aller toujours de l'avant, et la voix de la Kadosh Baruch Hu, Bishimcha, Beira, Bezrat Hashem, Adbet Mashiach Tzidkenu, Amen, Amen.